EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie pour nous de recevoir le pasteur Yvan Carluaire de l'église MLK. Bonjour pasteur.
Bonjour Joël.
Ça va bien aujourd'hui?
Ça va très bien, on est parti.
Ah oui, super, gloire à Dieu. Bien, c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir à l'émission. Mon épouse t'a rencontré hier, en fait, elle me racontait des belles choses sur toi et puis je suis certain que notre public va être aussi heureux de découvrir qui tu es. On va passer en fait une semaine à parler cœur à cœur ensemble pour découvrir qui est l'homme de Dieu qu'on entend prêcher à EMCI TV. Et puis juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pasteur Yvan, tu es pasteur à Paris, tu es marié, deux enfants, tu as une belle église qui s'appelle l'église MLK. Ouais. Donc, tu veux peut-être nous partager un peu ton cœur sur ton église, ton ministère?
Alors, ce qui est à l'intérieur est plus important que ce qui est à l'extérieur. Il y a tout un chemin pour arriver là. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant de vivre une aventure hallucinante avec Dieu.
Wow.
Ce que l'on vit aujourd'hui n'était pas prévu. Voilà, je vais tout de suite être honnête. Ce n'était pas un rêve pour moi d'être pasteur à Paris. Ce n'était pas pensé dans ma tête d'avoir une grande église. Moi, n'importe quel service pour Dieu, même plus petit, aurait été très bien. Et puis Dieu a décidé d'étendre et de faire grandir. Et du coup... et je vais essayer de vous montrer en quelques jours comment le Saint-Esprit, il conduit, en fait, sans qu'on puisse toujours anticiper, mais il adapte en permanence, un peu comme Abraham, vers le pays que je te montrerai.
Oui.
Jamais j'aurais cru que ce pays, aujourd'hui, dans lequel je suis, c'était ce que Dieu avait prévu. Mais c'était tellement bon. Voilà, c'est ça. Donc, allons au chemin.
Oui, gloire à Dieu. Et puis, c'est ça, tu es marié avec
Nathalie. Deux enfants.
Oui, qui ont quel âge?
Alors, mon aîné, il a 8 ans. Ma fille, elle a 5 ans. Et donc, c'est deux petites bénédictions dans ma vie qui grandissent et qui aussi m'apprennent à évoluer.
Ah, c'est sûr, hein, parce qu'on grandit beaucoup avec nos enfants. On a plein d'opportunités de croissance, même si nous sommes plus matures. Des fois, nos enfants nous enseignent des leçons. Et puis, c'est une bénédiction certaine pour nous d'avoir nos familles. Gloire à Dieu. Et dans la famille de Dieu, c'est merveilleux qu'on peut apprendre à te découvrir. Parce que, comme je priais ce matin, une des choses que j'ai souvent à cœur, c'est de découvrir les trésors de Dieu. Moi, j'aime ça, découvrir les trésors de Dieu. Et dans Éphésiens 4, verset 11, on lit en fait que Dieu a donné à l'Église les cinq ministères.
Et j'aime ce texte.
Comme tu es un des dons de Dieu, bien moi, je veux découvrir ce don-là. Allez. Et puis, on va découvrir ce trésor que tu es. Donc, j'aimerais ça qu'on apprenne un peu à découvrir comment tu as rencontré Jésus. Est-ce que tu étais un grand rebelle qui s'est, rebellé? Bref,
raconte-nous
tu es, comment tu as grandi dans les voies de Dieu.
Alors, je suis né dans une famille chrétienne, hyper chrétienne.
Wow.
C'est-à-dire que c'est assez rare en Bretagne, dans cette partie-là de la France, qu'il y ait une foi forte. Mm-hmm. Et donc, ma famille fait partie d'une exception. Okay. Puisque déjà, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils étaient passionnés pour Dieu. Donc, il y a eu un impact de Dieu dans la vie de ma famille. Et puis, dans les années 70, lorsque mes parents se sont rencontrés, ils ont fait le choix d'abandonner un peu leur carrière et leur projet de réussite personnelle pour s'engager dans une œuvre chrétienne à fond. Donc, mon père a refusé à l'époque une carrière de professeur à la faculté. Il a accepté d'être dans un endroit beaucoup plus isolé, en centre-Bretagne. Et ils ont notamment donné une maison. Donc ça a commencé, c'est pour juste montrer le niveau, leur cadeau de mariage quelque part, là, ils ont donné la maison, puis ils ont construit à côté. Et donc c'est dans cette famille hyper impliquée pour Dieu, avec une maman mais passionnée, un père qui avait concrètement pris des positions très fortes pour Dieu, que j'ai grandi. Et c'était une œuvre qui était communautaire. Alors c'était aussi la mode dans les années 70. C'était la mode un peu des hippies, mais il y avait une version hyper chrétienne.
Comme le mouvement Jesus Movement.
Ouais, là, c'était pas hippie, mais c'était très l'idée de dire on va aller vers un évangile intégral, très basé sur la sainteté. Mm-hmm. Et l'idée était belle au départ. Mm-hmm. Et puis progressivement, ça s'est déplacé parce que je pense qu'il y a manqué de garde-fous. Donc, alors que l'idée, la passion était vraiment pure et belle, il y a un peu d'orgueil et de violence qui s'est installée. Ça s'appelle la religion. Voilà. Donc ça partait d'une intuition divine, je pense. Puis après, il y a eu une structuration humaine qui a commencé à être de plus en plus lourde, comme un joug. C'était une affaire familiale en plus. Alors là, pour tous les téléspectateurs qui entendent, si vous êtes engagé dans une œuvre, qui en plus, il y a une grande implication familiale, les conflits prennent une dimension terrible quand ils arrivent. Mmh. On a vu, en fait, donc c'était mon oncle qui était le pasteur. Et le début était beau, très beau. Il avait l'idée de créer quelque chose d'assez ouvert, beaucoup d'activités pour l'enfance, beaucoup de scoutisme, beaucoup de choses. Et au début, c'était un petit rêve, en fait. Donc moi, quand je nais en 1980, j'ai une église qui propose un tout en un. C'est-à-dire qu'on a une réunion tous les jours, à midi. Donc j'étais vraiment gavé avec la parole de Dieu. Donc dès que j'étais petit... j'avais de très bonnes monitrices d'école du dimanche, donc ma mère me racontait en plus l'histoire de la Bible. Je me suis converti dès que j'ai pu comprendre. Donc je crois que c'est un petit peu ton histoire aussi. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans et j'ai dit dès le début, Seigneur, je veux te servir, je veux te plaire, que ma vie te serve. C'était mon objectif de vie. Et là, donc les années passent, je suis investi en scoutisme. Mon rêve, c'est de devenir pasteur. Mon rêve, c'est de servir Dieu. Jusqu'à ce que des choses commencent à choquer. Des injustices dans l'Église. Des personnes qui sont reprises, mais dans lesquelles il y a de la dureté, il y a de la violence. Et le système qui était censé nous pousser vers Dieu a commencé à nous restreindre et à nous emprisonner. Donc on n'avait pas le droit d'aller visiter certains membres de notre famille, parce qu'ils n'étaient pas assez chrétiens. Puis, on n'avait pas le droit d'avoir la télévision. Il fallait regarder la télévision commune de l'Église.
Okay. Wow.
On n'avait pas le droit d'écouter la radio, certaines émissions seulement.
La télévision commune de l'Église, est-ce que c'était comme des prédications de l'Église?
Non, ça n'existait pas trop à l'époque, mais on avait le droit de... Il fallait demander la clé pour avoir le droit d'aller regarder un match de foot.
Ah bon?
Okay. Non, c'était contrôle.
Ah, wow.
Puis après, tout a commencé à devenir très dans le contrôle parce qu'au nom de la sainteté totale, l'idée a été belle au départ.
Oui,
Dieu est pour la sainteté. Sauf que la sainteté vient de lui et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous.
C'est ça.
Et le danger, c'est que quand une œuvre chrétienne finit par se scléroser, par se durcir, elle va mettre des règles de sainteté au lieu de laisser au Saint-Esprit la possibilité de nous convaincre de péché, de justice et de jugement.
C'est ça.
Et c'est comme ça que ça s'est progressivement basculé vers un système très humain et très dur. Mmh. Et là, j'ai vu des injustices. Puis il y avait beaucoup au nom de Dieu. Mmh. Beaucoup de prophéties qui étaient un peu borderline. Mmh. Où on réglait des comptes en même temps qu'on prophétisait.
Ouais. En fait, on parle aussi beaucoup de légalisme à ce moment-là.
Voilà.
Tu vois, moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, mais mes parents ont vécu un peu dans le légalisme aussi.
C'est
pas communautaire, c'est pas aussi sectaire, mais je me souviens, ma mère me racontait un peu qu'à l'époque, si elle patinait le dimanche, c'était un péché devant Dieu.
Exact.
Si elle portait les peignures hautes. Tu connais les peignures hautes? À l'époque, c'était un péché devant Dieu. Donc, il y avait toutes sortes de règlements comme ça qui ne venaient pas, en fait, de ma famille, mais c'était des gens de l'extérieur qui s'imaginaient, en fait, que pour plaire à Dieu, il faut avoir une certaine peignure ou encore patiner le dimanche, c'est un péché. Donc, il y avait des pensées qui venaient de l'homme et qu'on disait qu'ils venaient de Dieu. C'est
alors,
ça, le légalisme.
On utilisait la Bible, mais si tu veux, la Bible sans les Saint-Esprits, ça devient une règle de loi terrible. Alors, il y avait bien marqué dans les épîtres de l'apôtre Paul, par exemple, sur les bijoux. On parle des exemples, ça va être très concret. Moi, j'avais 6 ans, et un jour, je vois, parce que c'était, en plus, on habitait tous les uns à côté des autres dans les maisons, donc c'est très communautaire, d'accord? Et là, il y a une inconvertie qui vient pour visiter sa famille, et donc elle dort chez le voisin, et je la vois avec une boucle d'oreille. Donc, moi, j'ai 6 ans, et je vois cette jeune petite fille avec 6 ans, et j'arrive vers elle, et je lui dis, tu peux pas faire ça. Tu as une boucle d'oreille. Tu vas en enfer.
Wow.
Je me rappelle, elle me regarde, elle me dit, mais comment ça je vais en enfer? Elle dit, laisse-moi arracher ta boucle d'oreille.
Oh, wow.
Donc, je partais dur, tu vois.
Wow.
J'étais persuadé que je voulais plaire à Dieu et c'était sincère. J'étais sincère et, sincère et dur.
Ouais.
Et sincèrement dans l'erreur. Tu vois, un zèle amer.
Ouais.
Et ça a marqué mon enfance. Donc, j'aimais Dieu, mais j'avais un concept religieux hyper dur. Et à un moment, Dieu permet, alors c'est dur à dire, mais Dieu permet que le malheur frappe notre famille et que la violence qui d'habitude était sur les autres, elle tombe sur nous. Donc j'ai ma grand-mère qui avait 82 ans, donc c'était la mère du pasteur. Et un jour, elle a été accusée, alors en plus c'était à tort, mais bon, d'avoir annoncé un service de baptême.
Okay.
Et donc elle a été privée de Sainte-Cène et exclue donc de la Sainte-Cène, de la communion, pendant 2 mois. Ouais, je vois que tes yeux sont... Wow. C'est hallucinant. Mmh. Et moi, je me rappelle mon tonton, à ce moment-là, il vient dans la maison et dit « Elle a touché aux choses saintes, elle sera coupée de la communion pendant 2 mois.
Wow. »
Je me rappelle ma mère pleurer, moi j'étais bouleversé. À ce moment-là, je dois avoir 12 ans, 13 ans peut-être. Et c'est un moment qui choque ma vie. C'est un moment qui choque ma vie, je me dis comment Dieu pourrait être aussi dur et aussi cassant. Et je vois ma grand-mère qui s'effondre et ma mère, un matin, elle prend le téléphone et elle dit « ben aujourd'hui, je ne viendrai pas ». Parce qu'il y avait des journées obligatoires d'église, de service. Et donc, elle dit « je ne viendrai pas ».
En fait, c'est son fils en fait,
qui a... C'est son fils qui l'a exclu, oui.
Waouh.
Ouais. C'était horrible. On ne peut pas imaginer le niveau de violence que c'était. C'était terrible. Et donc, j'ai vu ma grand-mère pleurer. À partir de ce moment-là, ma mère, il y a un truc qui a cassé dans sa tête au niveau de sa joie de vivre. Donc, elle a commencé une dépression, en fait.
Wow.
Elle a commencé une dépression. Et pendant 2 ans, c'était vraiment sombre.
J'ai à cœur de dire pour nos téléspectateurs, en fait, Dieu veut qu'on soit heureux. Ouais. Et quand on est dans un chemin qui n'est pas de Dieu, même si ça peut paraître de Dieu, comme on peut être dans un système religieux, on doit vraiment s'examiner soi-même et voir est-ce que je suis heureux aujourd'hui. Je me souviens, moi, j'ai été dans une église qui n'était pas comme celle qu'on a démarrée. On va juste dire ça comme ça. Mais c'est l'église où j'ai rencontré mon épouse Mathilde. Et puis, pendant 4 ans, j'ai étudié la théologie à fond. Moi, je viens d'un mouvement plutôt pentecôtiste. Et puis, ce mouvement-là, c'était pas du tout pentecôtiste. C'était vraiment calviniste. Et puis, bon, je me suis remis en question sur plein de doctrines. Et puis, pendant 4 ans, j'ai perdu ma joie. J'ai perdu, bref, la raison pourquoi Dieu m'avait sauvé. J'étais rendu un chrétien intellectuel. Et vraiment, je vivais dans ma tête. Et un jour, j'ai dit à mon épouse, en fait, le Saint-Esprit me parlait. Il me disait, regarde comment ça se passe dans ta vie. Parce que j'étais triste, malheureux, intellectuel. C'est pas mal d'être intellectuel, mais pas quand on devient malheureux. Hein. Et puis, le Seigneur m'a dit, c'est pas moi qui t'enseigne. Parce que quand je t'enseigne, c'est doux et léger. Quand tu te casses la tête là, pour tout comprendre, bien, c'est forcément pas le Saint-Esprit qui t'enseigne. Et puis, là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je te remets toutes mes questions, même si je comprends rien. Si c'est juste au ciel que je comprendrai ces choses, ça va. Puis j'ai remis ces questions-là au pied du Seigneur. Et puis à ce moment-là, mon épouse, on était couchés dans le lit ensemble, ma femme commence à pleurer, parce qu'elle ressentait comme ce fardeau qui disparaissait. Et puis j'ai réalisé à partir de ce moment-là, en fait, que j'avais emprunté un chemin qui était charnel. C'était un chemin totalement intellectuel, humain. Et le Saint-Esprit me disait, c'est pas comme ça que je t'enseigne. Et puis à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Là, j'ai commencé à dire, OK, Seigneur, je veux que tu m'enseignes. Et après, je rencontrais des chrétiens qui me répondaient sans que je leur pose la question, mais j'avais toutes sortes de réponses qui arrivaient naturellement comme ça. Et puis, j'ai pris cette décision dans ma vie que plus jamais que je retournerai en arrière. Et puis, je suis toujours intellectuel, on a toujours un cerveau, mais j'apprends pas de la même façon.
Mais tu avais la possibilité de te libérer, tu vois. Ouais. Or, à l'époque, moi, j'étais plus petit. Ouais. Et le problème de tous ceux qui... Il y en a des téléspectateurs qui ont été dans des églises, mais plus que abusives, tu vois, ça peut être... Il y a des endroits un peu sectaires, hein, ça existe, hein, partout, qui sont basés sur l'Évangile au départ et qui évoluent vers un système sectaire. Ouais. Et on ne sait pas toujours comment s'en sortir. Surtout qu'on était coupé de tout, tu vois, c'est un peu comme la Corée du Nord spirituelle. De ce que tu as fait, c'était merveilleux parce que tu as réussi, toi, tu avais une maturité. Mais moi, ma maman, elle était un peu dépendante psychologiquement. Donc, pour elle... Son oncle, c'était l'homme de Dieu et il ne pouvait pas avoir tort. Donc, il y avait dans sa tête, est-ce que j'ai le droit de retrouver ma joie ou pas ?
C'est ça.
Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me parle ou pas ? Et elle était paniquée. Et je me rappelle, elle me dit, un jour, je la vois pleurer, elle faisait le ménage et elle me dit, Yvan, donne-moi une parole de Dieu. Oh purée, à ce moment-là, j'ai 13 ans. Parce qu'elle était au bout. Et elle me dit, j'ai besoin de savoir si Dieu me demande de me soumettre à des choses que je trouve épouvantables ou pas. Et à ce moment-là, j'ai ouvert, et tu sais, dans le psaume, l'Éternel est ma lumière et mon salut, que peut me faire un homme ? Et elle s'est arrêtée, Elle s'est mise à... Tu me donnes une parole de Dieu, là. Et là, j'étais content. C'était ma première prédication. J'ai dit, waouh, le Saint-Esprit peut m'utiliser. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Que peut me faire un homme? Je ne sais pas s'il y a une téléspectatrice, un téléspectateur qui est là. Dieu est au-dessus de tout ce que les hommes et les systèmes humains peuvent faire. Dieu est au-dessus de toute religion, même qui se dit être de Dieu. Et là, ça a été un moment de respiration. Ce n'est pas fait en un jour. Hein. On ne sort pas comme ça d'un système où on a été embrigadé. Hein. Il nous a fallu plusieurs mois. On a de nouveau eu des rechutes. Hein. Je me rappelle quand ma grand-mère, le lendemain de Noël, elle nous appelle en disant... elle était en pleurs. On avait du mal à comprendre ses mots au téléphone. Et elle dit... parce qu'elle continuait, c'était son fils, donc elle offrait des cadeaux à tout le monde. Ma grand-mère était très très généreuse, donc elle avait 82 ans et elle envoie tous les cadeaux de Noël. Et en fait, ils ont toute sa famille qui l'a marginalisée en fait, a renvoyé tous les cadeaux de Noël au-dessus du portail.
Oh, wow.
Donc elle a retrouvé tous les cadeaux de Noël de ses petits enfants.
C'est cruel en fait.
Ah,
ça c'est un esprit religieux. C'est au-delà, c'est pas une personne qui fait ça seulement. C'est inspiré.
Oui, parce que ça dure, c'est chaud. Moi, j'étais là, il y a mon petit frère Florent, là, c'est pareil. Moi, j'avais dû avoir 13-14, donc lui, il devait avoir 9 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans peut-être. Et puis, on avait construit une cabane en face de l'œuvre de Dieu, parce qu'il y avait, le bâtiment, hein, donc, et on avait notre cabane, on habitait en face. On avait construit une très belle cabane. Et puis, un jour, il y a Florent, il vient me voir, il me dit Yvan, la cabane est cassée. Je commence à la cabane est cassée. Il y a des tempêtes, mais bon, on va pas casser une cabane comme ça. Et alors, du coup, on a vu notre cabane qui avait été cassée. On a dit, ces trucs, c'est fou, ça. Comment la cabane a pu être cassée? Et alors, on est allé voir nos petits voisins. Et puis, ils nous avaient expliqué que, en fait, les autres enfants de l'église étaient venus pour casser la cabane parce que, comme au temps de Josué, il fallait purifier l'endroit des faux chrétiens.
Wow.
Donc, tu vois, j'ai un passé qui est un peu lourd.
Wow.
Et donc, là, c'était chaud, quoi. Là, on se devait se dire, waouh, du jour au lendemain, ceux qui étaient nos amis, parce que comme on avait donné notre maison, on avait donné notre vie à Jésus, donc, et on avait tout donné à cette œuvre. Tu vois, il y a un moment où, peut-être la leçon, c'est vérifie bien que ce que tu donnes, tu le donnes à Dieu.
Donc la maison appartenait à l'église.
Oui, alors nous on avait construit une autre, mais mes parents ils avaient tout donné. Nos outils étaient les outils qui servaient de jardinage, on était tout dedans. Et à ce moment-là, on a dû vraiment dire, Seigneur, on est heureux d'avoir donné ça, parce que sinon il peut y avoir de l'amertume, la colère qui rentre. Et moi j'ai prené mon vélo et puis je me suis dit, Seigneur aide-moi à faire la différence. Et mon papa était très bon là-dedans. L'Éternel est ma lumière et mon salut, que peut me faire un homme? Ne confonds pas Dieu avec des actes qui sont faits contre toi au nom de Dieu. Si je n'avais pas eu ça, je serais devenu un terrible incroyant. Et j'ai vu des personnes qui sont sorties de cette œuvre, qui avaient bien commencé, et qui sont devenues de terribles incroyants. Et Dieu m'a protégé, et c'est un miracle aujourd'hui, je sois devant toi, c'est un miracle que je sois chrétien, parce que j'aurais pu tout envoyer par terre. Ma mère, elle disait, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on vide une baignoire, faut pas laisser partir le bébé avec. Et c'est très important de ne pas confondre Dieu et tout système, parce que partout où les hommes interviennent, il y a forcément des erreurs.
C'est ça, mais il n'y a aucune église parfaite.
Voilà, c'est ça.
Et comme j'ai souvent dit dans notre église, j'ai dit, notre église est imparfaite aussi. Et puis, c'est certain parce que dès que j'arrive dans une église, moi qui est imparfait, bien l'église, même si vous êtes tous parfaits, j'ai dit, parce que je suis là, l'église est imparfaite. Parce qu'il n'y a personne de parfait, en fait. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'église parfaite. Ceci dit, il y a des églises qui sont malsaines et puis qui sont dangereuses aussi. Ouais. Et pour toi, comment tu as fait pour te sortir, en fait, de ce système religieux pour rencontrer vraiment le cœur du Père? Parce qu'en fait, tu voyais beaucoup de choses qui ne faisaient pas plaisir au Père, qui ne représentaient pas bien le cœur du Père. Mais pourtant, tu as pu trier, c'est grâce à ton Père ou...
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on ne sort pas en une minute. Hein.
Non.
Je voudrais vraiment dire ça à un internaute ou à un téléspectateur, une téléspectatrice qui regarde ça. Ça va prendre du temps. On ne peut pas sortir de Corée du Nord en un jour. Et si tu sors trop vite, tu exploses. J'ai vu une statistique qui m'a fait peur. Je ne sais pas si tu as vu ça. c'est sur la ville de Séoul, en Corée du Sud, mm-hmm. ville de liberté, ouais. d'épanouissement. Eh bien, il y a beaucoup d'émigrés nord-coréens qui fuient vers le Sud. Et quand ils arrivent à Séoul, les études statistiques montrent que la population qui se suicide le plus à Séoul, c'est les Nord-Coréens. Donc, c'est des gens qui ont tout quitté pour la liberté, mais quand ils arrivent dans la liberté, ils n'arrivent pas à garder la joie de vivre parce qu'ils sont trop déboussolés, trop perdus. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps. Et c'est pour ça que mon papa était important parce que lui, il a apporté la doctrine. Alors, c'est là où c'est bon d'écouter des messages équilibrés. Merci pour vos émissions. Nourrissez-vous de messages équilibrés parce que c'est extraordinaire. Mon papa, il nous a dit, voilà, Luther, c'est le salut par grâce. Et donc, j'ai fait un mini-institut biblique à 13 ans, 14 ans, parce que tous les soirs, il disait, par exemple, si l'un prophétise, les autres jugent. On n'est pas sauvé parce qu'un pasteur, parce qu'une église nous dit quelque chose. On est sauvé parce que l'on croit en Jésus et qu'on a demandé pardon pour nos péchés. Donc, tous les soirs, on gardait bien l'idée que tu sais bien ce texte de Éphésiens 2.
En fait, je pourrais juste le lire pour ceux qui ne connaissent pas. Le texte, en fait, on parle du salut par grâce.
Exact.
Éphésiens 2, 8 qui nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et là, certaines personnes diront, oui, mais si c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, est-ce que ceci veut dire que je peux vivre de n'importe quelle façon? Oui. Mais au verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes
c'est
œuvres.
C'est très beau.
Donc, nous sommes sauvés pour faire des bonnes choses, mais ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses qu'on peut mériter le salut. Et la religion nous enseigne toujours, en fait, fais quelque chose, et si tu fais des choses assez bien, Dieu va approuver de ta vie. Mais en fait, on réalise tous que nous sommes tous pécheurs, incapables de se sauver nous-mêmes. Donc, nous avons forcément besoin de la grâce de Dieu.
Pasteur Joël, je peux te dire quelque chose? Je suis impressionné que on ne savait pas qu'on allait dire ça. Tu ne savais pas que j'allais lire ce verset et tu l'avais déjà préparé à la bonne page. Donc, je pense qu'un internaute a besoin d'entendre ce verset. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu.
C'est ça.
C'est extraordinaire. Et moi, ça m'a sauvé.
Même si on ne sort pas forcément du jour au lendemain, dans le sens qu'on doit vivre un processus de transformation, soit être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, une personne qui sort de la Corée du Nord, par exemple, spirituelle, bien, elle peut être délivrée d'un seul coup, dans le sens que Dieu se révèle à elle et puis elle réalise, non, ce n'est pas la vérité. Mais là, avant de tout comprendre, il va y avoir un processus. Mais vous pouvez vivre une délivrance aujourd'hui même.
Oui.
Si on épouse la parole de Dieu et on réalise, non, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et si aujourd'hui, vous réalisez que vous êtes dans un système religieux, vous êtes là, vous êtes pris peut-être même dans des combats, peut-être vous êtes dans une famille religieuse comme ça. Et on peut vivre comme ça et dire, mais comment est-ce que je vais faire? Ma famille est dans cette église. Même, j'ai eu des gens qui étaient dans les témoins de Jéhovah, qui nous ont écrit récemment, des gens qui ont écouté les enseignements qu'on a fait ici, qui ont été totalement libérés de cette association religieuse. Mais là aussi, leur famille demeure dans ce mouvement-là. Donc, il y a des défis. C'est pas facile, mais Dieu est là. Et c'est ça la solution qu'on veut vous proposer aujourd'hui. Si vous relâchez votre foi et vous êtes prêt à sortir des ténèbres et entrer dans la lumière de Dieu, tout peut changer dans votre vie. Tout peut changer. Et vous pouvez vraiment vivre le miraculeux, comme le pasteur Yvan a vécu, certainement une délivrance de la religion pour rentrer dans cette vie de liberté qui est une relation véritable avec Dieu.
Ben moi, je l'ai gardé à ce moment-là. C'est-à-dire que en prenant mon vélo, là, seul, je me suis dit, Dieu, quelque part, sauve-moi.
Ouais.
Et n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire, on peut être dans un endroit très favorable et s'éloigner de Dieu. On peut être dans un endroit très défavorable et s'approcher de Dieu. Donc, j'ai envie de dire à toi qui regardes cette émission, choisis qui tu veux suivre. Et la tentation, peut-être des fois, c'est de dire, mais j'ai pas choisi Jésus, je me suis pas converti ou j'ai abandonné ma foi parce que j'étais trop déçu. Ben, je suppose que tu as plein de courriers ou de gens qui regardent cette émission et qui disent, bon, allez, c'est la dernière fois que je regarde. Et puis, de toute façon, la religion et puis toutes ces histoires, j'étais trop déçu. Puis même, il y a un pasteur, il m'a déçu. Puis il y a un ancien qui m'a dit du mal. Ouais, mais au ciel, on ne va pas seulement arriver lorsqu'on sera devant le trône de Dieu et on pourra dire, excuse-moi, oui, c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi de ma vie, mais ce n'est pas de ma faute, j'étais trop déçu. Merci, Seigneur, pour celui ou celle qui aujourd'hui dit, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les moments faciles, dans les moments difficiles. ça peut être une journée de salut pour quelqu'un aujourd'hui.
J'aimerais ça, Pasteur Yvan, t'inviter à prier avec les personnes à la maison. Il y a des gens qui sont peut-être épuisés, spirituellement épuisés. Et j'aimerais ça vous inviter à ouvrir votre cœur aujourd'hui. Ouvrez votre cœur parce que je crois que le Pasteur Yvan a des paroles, une prière qui va vraiment vous aider à sortir de cette situation difficile. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de consolation. Il veut vous consoler, il veut vous toucher aujourd'hui, mais vous devez ouvrir votre cœur pour recevoir les soins du Saint-Esprit.
Amen. Oui, notre Père, on te prie parce que tu connais exactement la situation que vit la personne qui regarde maintenant. Et Seigneur, là où moi, je ne peux pas intervenir parce que mon histoire est encore différente de son histoire, mais toi, tu connais les détails de tout ce qu'il ou elle a vécu. Tu sais quand est-ce qu'elle a crié à toi, tu sais quand est-ce qu'elle a été déçue par les hommes, tu sais quand il a pris ce combat dans sa tête de dire « Est-ce que c'est Dieu qui permet ça? Pourquoi, papa? Est-ce que tu existes ?» En cet instant, je te demande de nous aider à capituler devant toi. Voilà, tu es Dieu dans le ciel et on est responsable de te choisir. Indépendamment de tout ce que les autres autour de nous font, je suis responsable et la personne qui regarde cette émission, je prie pour elle. Donne à cette personne de choisir la vie. Moi, je peux dire avec ce témoignage que tu m'as arraché de tout ce qui pouvait être cassé dans ma vie, de tout ce qui pouvait être dur dans ma vie. Merci de le faire pour ma sœur en cet instant, qu'elle soit libérée parce que tu es avec elle. L'Éternel est sa lumière et son salut. De qui elle aurait crainte? De personne. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit maintenant et je te loue au nom de Jésus. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci, Pasteur Yvan, d'avoir été là. Nous avons été bénis. Et puis aussi, je sais que vous avez été bénis à la maison. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, peut-être que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes un chrétien dans une situation difficile et puis vous vous êtes reconsacré aujourd'hui. Bien, peu importe votre situation, écrivez-nous dès aujourd'hui en écrivant à videfoi@emctv. Donc, videfoi@emctv. Et puis, ça va être un plaisir pour nous de recevoir votre témoignage. Donc, merci à vous également d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.